à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel du mercredi 9 mai 2018. Abdelrahman Dia en direct de Washington. Voici les titres. Centrafrique, l'appel à la journée ville morte n'a pas été bien suivi à Bangui. Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC, le dernier bilan fait état de 21 morts.
Les gens sont en train de mourir. Donc on a déployé les équipes samedi passé. Ils sont revenus dans la soirée, la nuit. Donc le dimanche, on a eu des éléments. Donc ils ont amené des prélèvements.
Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a de nouveau été renvoyé au 25 mai 2018. Le président Donald Trump annonce la libération des trois Américains qui étaient détenus par la Corée du Nord. Et au lendemain de la sortie des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, les Européens se sont engagés à tout faire pour sauver le texte. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, faible mobilisation ce mercredi autour du mot d'ordre de la société civile appelant à une journée ville morte. Les activités se sont déroulées normalement dans plusieurs secteurs de la capitale. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Contrairement à ce que la société civile considère d'une réussite la semaine dernière, ce nouvel appel à l'observation d'une journée ville morte n'a pas eu un écho favorable auprès de la population. Au centre-ville, des banques, des magasins, des marchés, des services de l'administration publique et privée ont ouvert leurs portes et la circulation était fluide sur les avenues. Le seul secteur paralysé aujourd'hui est l'éducation, car la quasi-totalité des établissements scolaires et universitaires étaient restés fermés. Le groupe de travail de la société civile a appelé à l'observation d'une nouvelle journée ville morte ce mercredi pour protester contre la persistance de la violence et l'incapacité des autorités et de la MINUSCA à protéger la population. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Les autorités congolaises font état de 21 cas d'Ebola depuis le 3 mai dernier, dont 17 décès dans la province de l'Équateur. Selon le ministère de la Santé, l'équipe médicale du gouvernement s'est rendue sur place et appuyée par l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières. Le gouvernement assure que le pays dispose de ressources humaines bien formées pour faire face à cette neuvième épidémie de la fièvre hémorragique. Nous y reviendrons en partie magazine. Le procès du coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso a repris ce matin après plus d'un mois de suspension, mais il a aussitôt été renvoyé au 25 mai. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont les principaux accusés. Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, fait le point.
Le procès a été reporté au 25 mai prochain à la demande des avocats de la défense, nouvellement commis d'office. Début avril, des avocats d'une douzaine d'inculpés s'étaient déportés du dossier. Les nouveaux avocats pour assister ces inculpés veulent du temps pour prendre connaissance des pièces de la procédure. Maître Arnaud Sampebré fait partie de ces avocats de la défense.
Nous estimons que le délai qui nous a accordé pour prendre connaissance du dossier n'est pas suffisant, mais nous ne doutons pas un seul instant qu'à cette audience, il y aura forcément un autre renvoi. Il y a eu un groupe de 8 accusés qui n'avaient pas de conseil.
Oui, un autre renvoi est encore possible, le 25, car à l'audience de ce mercredi, des avocats se sont encore déportés, laissant près d'une dizaine d'inculpés sans conseil. Et il y a eu aussi 3 demandes de liberté provisoire. 2 ont été rejetées. Une renvoyée à la prochaine audience le 25 mai. Le tribunal s'est montré incompétent à la demande de sortie du territoire pour raison de santé du journaliste Adama Ouédraogo, également inculpé. Le coup d'état de septembre 2015 au Burkina Faso a fait près d'une quinzaine de morts et au moins 200 blessés. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé et plus de 80 personnes sont les présumés inculpés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le principal parti d'opposition au Nigeria a déclaré que la santé du président Muhammadu Buhari l'empêche de diriger le pays. Monsieur Buhari s'est de nouveau rendu à Londres pour raisons médicales. Dans un communiqué, le PDP, le Parti populaire démocratique, écrit que cette nouvelle absence du chef de l'État pour raisons de santé démontre qu'il ne va pas bien et qu'il n'est pas en mesure de gérer les affaires de l'État. L'opposition togolaise a annoncé l'annulation de ses 2 jours de marche qui devaient démarrer aujourd'hui à Lomé et dans plusieurs villes du pays. Le gouvernement n'avait pas interdit ces manifestations, mais avait imposé des itinéraires que l'opposition refuse d'emprunter. Le président mozambicain Filipe Nyusi s'est dit prêt à poursuivre les négociations de paix avec le successeur d'Afonso Dhlakama, l'opposant décédé la semaine dernière. Son décès inattendu a plongé le pays dans l'incertitude alors qu'il négociait depuis plusieurs mois un accord de paix avec le président Nyusi, son éternel rival. Dirigeant historique de la résistance nationale du Mozambique, la RENAMO, depuis 39 ans à Fosso de la Kama, est mort le 3 mai à l'âge de 65 ans des suites d'une maladie dans son camp retranché des montagnes de Gorongosa.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pays européens signataires de l'accord de Genève sur le nucléaire iranien ne veulent pas baisser les bras après le retrait des États-Unis. La décision annoncée hier par Donald Trump continue de susciter des réactions. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le président iranien Hassan Rouhani a accusé son homologue Donald Trump de pratiquer une guerre psychologique. L'ayatollah Ali Khamenei a exigé des Européens des garanties pour que son pays reste dans l'accord. Dans un communiqué commun, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May se disent déterminés à assurer la mise en œuvre de l'accord. Ils disent vouloir maintenir les avantages économiques pour la population iranienne. Moscou a fait part de sa déception et de son inquiétude. La Turquie dit craindre de nouveaux conflits tandis que la Syrie a réaffirmé sa solidarité à Téhéran. C'est une erreur grave selon l'ex-président Barack Obama. En revanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié de courageuse la décision du président Trump, tout comme le Royaume d'Arabie Saoudite, grand rival de l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'Iran remplit ses engagements en matière de nucléaire, conformément à l'accord de 2015.
Toujours au chapitre des réactions dans le Golfe, le Qatar, le Koweït et Oman se sont montrés prudents, tandis que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont salué la décision du président Donald Trump. Un responsable de l'armée irakienne a affirmé que le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi se trouve en territoire syrien, le long de la frontière avec l'Irak, et se déplace accompagné d'une poignée d'hommes. Selon ce général, le calife autoproclamé de l'État islamique se déplace accompagné de 4 ou 5 personnes, dont son fils et son gendre. En février, un haut responsable du ministère irakien de l'Intérieur avait affirmé que le chef du groupe État islamique était vivant et soigné dans un hôpital de campagne dans le nord-est de la Syrie après avoir été blessé dans des raids aériens. Le président Donald Trump a annoncé ce mercredi la libération de 3 Américains qui étaient détenus par la Corée du Nord. Le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui était à Pyongyang, les ramène aux États-Unis. Le point avec Mary Benson.
Le président Donald Trump a déclaré dans un tweet que les 3 Américains qui étaient détenus en Corée du Nord ont été libérés. Ils reviennent aux États-Unis en compagnie du secrétaire d'État Mike Pompeo, qui a été reçu hier à Pyongyang. La date et le lieu du prochain sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ont enfin été fixés. La date et le lieu du prochain sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ont été fixés. Les 3 personnes libérées arrivent demain matin à Washington. Kim Hak-song travaillait pour l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang lors de son arrestation en mai 2017. Kim Sang-duk, aussi connu sous le nom de Tony Kim, travaillait pour la même université. Il a été arrêté en avril 2017 à l'aéroport de Pyongyang alors qu'il rentrait chez lui. En avril 2016, Kim Dong-chul a été accusé de subversion et espionnage. Cet homme d'affaires et pasteur âgé d'une 60aine d'années a été condamné à 10 ans de travaux forcés.
Ici aux États-Unis, Gina Haspel, choisie pour diriger l'agence américaine de renseignement, est interrogée par les sénateurs de la commission des renseignements. Elle a déclaré que la CIA ne reprendra pas le programme d'interrogation poussé, introduit après les attentats du 11 septembre et assimilé à de la torture. « Je peux vous assurer de mon engagement personnel et sans réserve que sous ma direction, la CIA ne reprendra pas un tel programme d'interrogatoire et de détention », a-t-elle affirmé. Elle est accusée d'être impliquée dans des interrogatoires où des militants présumés d'Al-Qaïda avaient été torturés en 2002. Et puis le directeur de Human Rights Watch en Israël et dans les territoires palestiniens accuse les autorités israéliennes de chercher à faire taire l'ONG en l'accusant de soutenir le boycott d'Israël. Tel Aviv lui donne 14 jours pour partir. Le ministère israélien de l'Intérieur a annoncé mettre fin au permis de séjour d'Omar Shakir, ressortissant américain, estimant qu'il est depuis des années un militant du BDS soutenant le boycott d'Israël de manière active. Une accusation qu'il rejette fermement. Enfin, deux missiles balistiques tirés par les rebelles houthis du Yémen ont visé ce mercredi la capitale saoudienne, selon le porte-parole de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et qui intervient militairement contre ces insurgés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on passe à l'actualité économique. Eric Manilakiza pour la Minute Eco.
La BAD et la Banque Centrale Populaire du Maroc vont investir 100 millions de dollars pour développer le commerce intra-africain. L'accord de financement permettrait de booster les relations commerciales entre les entreprises marocaines et d'autres entreprises africaines. Plusieurs secteurs, notamment l'eau, les infrastructures et l'énergie, seront privilégiés. Le commerce intra-africain dans les échanges commerciaux reste l'une des plus faibles au monde avec 16% en moyenne. La BAD veut investir jusqu'à 700 millions de dollars pour renforcer ses flux commerciaux. En mars dernier, 44 pays ont signé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine pour créer un marché unique. Le gouvernement du Nigeria envisage l'émission de 70 millions de cartes d'identité pour faciliter l'accès de ses citoyens aux services financiers. Ce programme permettra au gouvernement d'augmenter les données du fichier d'identification nationale et prendra en compte environ 30 millions de Nigériens. Le programme va aussi améliorer l'efficacité des services, notamment les impôts et l'assurance maladie. Ethiopian Airlines négocie des accords de partenariat pour le lancement de compagnies aériennes dans 5 pays africains et prévoit de porter le nombre de ses appareils à 150 d'ici 2025. La compagnie veut s'implanter au Mozambique, au Tchad, à Djibouti, en Guinée équatoriale et en Guinée. Elle envisage de passer des commandes pour 13 nouveaux Boeing 787 et 6 Airbus A350 avant la fin de l'année en cours.
Merci beaucoup, Eric. À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane. Bonsoir à tous.
15e tour cyclisme du Bénin. Encore un trio burkinabé pour la seconde étape.
Effectivement, une fois encore, le Burkina Faso s'est illustré sur ce Tour du Bénin, la seconde étape ce mercredi entre Djogou et Parakou, 133 km, remporté par Souleymane Koné. Après son échappée à 60 km de Parakou, Koné a gardé le même rythme jusqu'à l'arrivée en 3h17. Koné devance ses compatriotes Abdulaziz Nikema, deuxième, Safo Bikenga, troisième, endosse au passage le maillot jaune de leader. A noter que le premier béninois de la course, Bashiki, a terminé à la sixième place de l'étape. La troisième étape, c'est ce jeudi entre Kilibo et Dassazoumbé, d'une distance de 135 km.
Gros intérêt autour de Yaya Touré en Angleterre.
En fin de contrat avec Manchester City, le milieu de terrain international ivoirien Yaya Touré pourrait rester en Première Ligue. C'est du moins ce que croit savoir le Daily Mirror. Le journal affirme que l'ancien joueur de Monaco et de Barcelone susciterait l'intérêt de trois écuries anglaises, Everton, Burnley et Wolverhampton, qui sera de retour parmi l'élite la saison prochaine.
Il y a des sanctions en Espagne.
L'international espagnol Sergi Roberto, exclu dimanche dans le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, eh bien il a été suspendu 4 matchs pour son agression sur le défenseur madrilène Marcelo. Dans sa décision, le comité de compétition de la Fédération espagnole a considéré que le geste du milieu de terrain était constitutif d'une agression n'ayant pas entraîné de blessure. On rappelle qu'il ne reste que 3 matchs en Liga pour le Barça, déjà champion. Le prochain, ce sera contre Villarreal en match en retard de la 34e journée.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry n'aura pas tremblé pour amener les Golden State Warriors à vaincre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Une victoire 113-104 grâce notamment à 28 points de Stephen Curry et 24 de Kevin Durant. Les Warriors qui rencontreront en finale de la conférence Ouest Houston. Le choc tant attendu aura lieu puisque Houston a éliminé les Utah Jazz. Une quatrième victoire sur les 5 matchs, 112-102 hier soir.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia, en votre compagnie. On passe au dossier du jour. Que va-t-il donc se passer après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien? Pour Walid Farez, ancien conseiller aux affaires étrangères du président Trump, les États-Unis vont remobiliser dans les mois à venir leurs partenaires pour une renégociation de l'accord. Walid Farez est interrogé par Bagasikoura.
La position de Trump est de générer, de créer des nouvelles données qui vont obliger les partenaires internationaux à revenir sur la table de négociation, pas aller vers une confrontation, mais de produire un document plus équilibré.
En Europe et aussi en Iran, on s'active à ce que l'accord soit maintenu. Comment vous comptez convaincre les Européens?
L'Iran, bien sûr, le commandement iranien va continuer à vouloir profiter de l'accord parce que c'est surtout à travers ce traité que l'Iran est en train de pouvoir faire rentrer des sommes financières et du cash, comme on dit. Les Européens, eux, savent que les États-Unis s'opposent au traité initial, mais savent aussi que les partenaires arabes des États-Unis aussi sont gênés. Donc les Européens, maintenant, ils vont continuer à faire leurs obligations financières en ce qui concerne l'Iran. Probablement, au bout de 6 mois, il va y avoir de nouvelles tractations, de nouvelles négociations, parce que, en fin de compte, ce traité n'était pas à propos de sécurité, mais à propos d'arrangements financiers, la réalité sur le terrain. Parce que la question nucléaire elle-même, personne ne s'y oppose. Que l'Iran ne fasse plus de bombes, c'est quelque chose où il y a beaucoup de consensus. Mais maintenant, il faut trouver donc un nouveau équilibre entre ces trois parties, l'Europe, les États-Unis, les pays du Proche-Orient, pour pouvoir revenir sur la table. La Russie, je pense, va rester là où elle était, donc faire du business avec l'Iran, il n'y aura pas de problème, y compris la Chine.
Il y a des tensions à plusieurs niveaux avec les partenaires européens, d'abord au niveau de l'OTAN, ensuite au niveau commercial avec les tarifs sur l'acier. Et maintenant, sur l'accord nucléaire, qu'est-ce que vous dites à ceux qui accusent Donald Trump d'avoir saboté les relations transatlantiques?
C'est son opposition. Ce n'est pas des partis neutres. Ils l'ont toujours fait depuis la campagne, je me rappelle très bien. Maintenant, bien sûr, l'accord iranien est autre chose, parce qu'il y a des intérêts financiers, les banques européennes, les compagnies européennes ont un intérêt à sauvegarder. Vraiment, s'il leur est offert une autre voie de pouvoir accommoder, ils le feront. Mais je pense que c'est un peu tôt maintenant. L'Amérique va se réorganiser, surtout d'une façon au niveau interne avec le Congrès. On a des élections qui viennent dans quelques mois. Et après cela, je pense qu'il va y avoir un sommet euro-américain et arabe pour ramener les choses dans le bon sens au Proche-Orient.
C'était Walid Farez, ancien conseiller aux affaires étrangères du président Trump.
Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Un accord arraché en 2015 après 2 années difficiles de négociations et de nombreux rebondissements. Que signifie cette décision majeure prise par le président américain? Cette décision ouvre-t-elle une période d'incertitude dans la région du Proche-Orient? L'Iran va-t-il accélérer son programme nucléaire? Comment réagit la communauté internationale? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin.
Au Cameroun, le gouvernement appelle les populations à dénoncer les actes de corruption et les fonctionnaires fictifs. Elles peuvent appeler des numéros verts au ministère des Finances et à la Commission nationale anticorruption. L'opération lancée depuis le début du mois dernier suscite un certain engouement populaire. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Allô, bonjour. Lindbergh Konak.
Dans une salle de la Commission nationale anticorruption, le téléphone ne cesse de sonner. C'est ici que sont enregistrés, au numéro vert 1517, les appels des Camerounais qui dénoncent les actes de corruption. Sous anonymat, deux agents de la Commission nationale anticorruption dressent le bilan des deux premières semaines de mise en service de ce numéro vert.
Nous sommes à en moins 100 appels par jour, venant de toutes les parties du territoire national, et des appels qui dénoncent des faits de corruption, des infractions assimilée à la corruption.
D'une manière générale, nous recevons des appels de personnes qui dénoncent pour la plupart la corruption dans les services publics ou des officiels corrompus. Au-delà de cette catégorie d'appelants, nous avons des gens qui dénoncent la corruption dans les marchés, les pratiques de corruption instaurées par des responsables de ces marchés.
L'initiative d'un numéro vert à la Commission nationale anticorruption a coïncidé avec celle du nouveau ministre des Finances. Ce dernier a invité les citoyens à dénoncer des fonctionnaires fictifs en vue d'assainir le fichier solde de l'État du Cameroun. Cyril Edou Elor, directeur général du budget au ministère des Finances.
Vous pouvez venir donner l'information que telle personne, je le connais, il n'est pas au poste, mais il perçoit la solde. Ou bien telle personne est décédée, mais ses ayants droit perçoivent frauduleusement sa solde. Ça peut être aussi certains qui camouflent ou bien qui perçoivent les salaires de d'autres personnes.
L'appel à dénonciation des corrompus, corrupteurs et fonctionnaires fictifs au Cameroun est cependant diversement apprécié à Yaoundé.
Il faudrait impérativement dénoncer ce genre d'actes de corruption qui plongent notre pays davantage dans la pauvreté, dans le chômage.
Je suis prêt à le faire n'importe quel moment. Il faut que je dénonce à ceux qui ne travaillent pas.
Moi, je ne suis pas prêt à dénoncer un fonctionnaire fictif. C'est la mascarade du gouvernement. Ce sont eux qui octroient le matricule à ceux-là qui restent au quartier et mangent l'argent de l'État.
Et pour les cas de corruption, vous appelez quand même au 15-17.
Je ne suis pas d'administration pour appeler.
À la Commission nationale anticorruption, les premières mesures ont d'ores et déjà a été prise après dénonciation de quelques cas de corruption, comme l'explique un cadre de la CONAC.
Quand c'est les cas de corruption qui se passent, il y a ces cas d'intervention qui peut avoir lieu si c'est dans les environs de Yaoundé. Mais si ça se passe hors de Yaoundé, on est en contact direct avec des inspecteurs régionaux de service. Et puis, il y a d'autres dénonciations qui sont tellement spécifiques qu'on transmet directement à certaines administrations. Pour ce genre de cas, on est en train de le recenser pour transmettre au ministère de la Finance sur ce qu'il y a un recensement de fonctionnaires en cours.
Après dénonciation, quelques fonctionnaires du ministère des Finances sont depuis quelques jours en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Emmanuel Jeune. Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les autorités congolaises et leurs partenaires organisent aujourd'hui la réponse face à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo et qui a déjà fait 17 morts. Eddy Isongo a joint le médecin épidémiologiste de la province de l'Équateur, Dr José Monzembela.
Le village Kokoimpenge est à 45 km du bureau central. C'est là que se vit le phénomène de la maladie à virus Ebola. Nous sommes en Mbandaka, chef de l'Équateur. Bikoro, c'est l'une des zones centrales de la province. Les gens sont en train de mourir. Donc, on a déployé les équipes samedi passé. Ils sont revenus dans la soirée, la nuit. Donc, le dimanche, on a eu des éléments. Donc, ils ont amené des prélèvements, 5 échantillons prélevés. On a trouvé 3 au centre de santé de Kokoimpenge dans ce village et 2 malades aussi à l'hôpital général. De référent de Bikoro, donc les 5 échantillons de malades trouvés actifs ont été envoyés à l'INRB et parmi lesquels 2 résultats sont revenus positifs. Donc à l'heure actuelle, on est à pied d'œuvre. Il y a une équipe déjà des experts sur terrain depuis ce matin. Il y a aussi un appui du niveau central, une délégation arrivée, donc du ministère de la Santé avec le partenaire. On est en train de travailler pour renforcer la lutte contre ces fléaux, donc la maladie à virus Ebola.
Est-ce que la population est informée de ce qu'il faut faire quand on voit quelqu'un présentant des signes de cette maladie?
La sensibilisation doit être continue. Je pense autrefois, je pense que ça fait des années. Et donc, ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle. La première fois, bon, ça, il faut remonter dans l'historique quand la province était encore une depuis longtemps. Alors, maintenant, là, que ce phénomène est survenu, donc tout est en marche pour la réponse en rapport avec la prise en charge, la communication à la population pour prendre des précautions pour ne pas être atteinte par la maladie. Donc le premier phénomène, c'était à Yambuku, donc à plus de 600 km d'ici. Le dernier phénomène, c'est à La Choapa, maintenant comme province, à plus de 500 km aussi d'ici. Donc ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle.
On sait que la population de ces côtés vit entre autres de la chasse et les animaux sont les vecteurs porteurs de ces virus. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le comportement à avoir quand ils vont en chasse, par exemple?
Ce qu'il faut savoir, que nous sommes dans la forêt équatoriale, il y a le gibier, il y a tout cet écosystème qui est favorable à l'éclosion de cette maladie. Ce que nous devons faire, c'est tellement renforcer la population, la communication, la sensibilisation à la population pour prendre des dispositions qui s'imposent. Je pense qu'avec la déclaration des ministres, qu'il a dit, donc toutes les dispositions sont prises pour mettre fin à la maladie.
C'était le docteur José Monzembela, médecin épidémiologiste de la province de l'Équateur.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Difficile pour les femmes de se faire un nom sur la scène du hip-hop dans un milieu essentiellement masculin. Elles sont pourtant de plus en plus nombreuses en Afrique, comme Fenoz, auteure-compositrice burkinabé, militante anti-MGF, qui a créé son propre label quand il a compris les réalités du monde de la musique. Dans cet extrait d'entretien avec Nathalie Barge, elle décrit les péripéties autour de son troisième album « Baby ».
Cet album a voyagé du Canada, au Mali, Bamako, la France, l'Allemagne, passant par des producteurs d'instrumental qui sont au Nigeria, aux États-Unis, Blinkstef au Canada. Et maintenant, pour les concerts, comment ça se passe, vu que c'est difficile de se déplacer avec toute une band? Donc, on fait une sorte de casting et on envoie, au fait, la musique déjà, là, quand on trouve les personnes. Et même, je dirais, en anecdote, là, c'est tellement chaud quand j'ai enregistré mon album. À la dernière minute, il y avait quelques problèmes avec des arrangeurs, parce que c'est toujours le monde de la musique. C'était un combat, là. Et ils oublient que ben, moi, je suis une femme, mais je suis une guerrière. Quoi. Je me détermine comme étant une ninja. Alors, la ninja, elle a fait bon d'accord. Comme c'est comme ça, et ben, à la dernière minute, j'ai acheté un ordi avec tout un programme de home studio. Et j'ai enregistré 3 chansons chez moi. Et après, que j'ai tout envoyé au Canada, à Montréal, à Blinkstef, pour qu'ils puissent faire le mixage. Ben, imaginez-vous, avec la différence horaire, les 6 heures de temps, mais moi, j'étais comme une zombie. Dans la journée, en Allemagne, je travaille, je fais ça. Et la nuit, maintenant, j'étais au avec Blinkstef là au Canada et puis pour régler tout le mixage. Ben c'était...
Vous êtes hyper active. Un petit mot sur l'excision.
En fait, l'excision, moi, toute ma vie, tant que je vis, je serai toujours là pour donner mon mot. Parce que en tant déjà que victime de l'excision, et je tiens toujours à le rappeler que ce ne sont pas mes parents qui m'ont fait ça, mais des personnes de la famille qui ont jugé bon de me faire subir ce sort. Et moi, je suis complètement opposée à toute forme de pratique de l'excision, parce que c'est nuire à la vie de la femme, c'est détruire son monde, c'est la faire sombrer vraiment dans une dépression pas possible. Toutes les victimes de l'excision en souffrent et beaucoup ne parlent pas parce qu'il y a cette peur là, parce qu'on est une fois victime par ce mal et une deuxième fois victime de la société parce qu'on a peur en fait de s'afficher avec cela. Et troisièmement, ben, la société ne nous rend pas ça bien, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça. Et je voudrais aussi recommander à toutes les victimes de l'excision de prendre aussi cette démarche, quand c'est possible, d'aller faire la reconstruction du clitoris, parce que moi, je l'ai fait. Et franchement, je me suis sentie renaître. C'est vrai que ça ne fait pas oublier ce qu'on a subi, parce que c'est inoubliable, mais au moins, on se sent vraiment renaître, on se sent différente. On se dit, ah, c'est cela qu'on m'avait enlevé. C'est vrai que j'arrive pas au même degré que les autres, mais au moins, je sais ce que c'est maintenant, et ça fait avancer.
Cet effet nous est actuellement en tournée en Amérique avant de partir pour l'Afrique. Rendez-vous samedi à 19h05 TU sur VO Afrique pour une édition spéciale du monde au féminin avec la chanteuse burkinabé Fenoz, dont voici un extrait. La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, elle a été mise en onde par Sims Lumami à la console d'Anne Crafton. Présentation Abdulrahman Dia. Au revoir.
VOA Afrique, les infos. À Washington. VOA Afrique, les infos. À Washington. À Washington. Les infos. À Washington.